Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission avec les enseignements de Sœur Emmanuelle sur les 5 points fondamentaux rappelés à Medjugorje. Nous avons déjà vu la prière du rosaire, le jeûne. Nous allons voir aujourd'hui la première partie de l'enseignement sur l'Eucharistie, le mystère central de notre foi, vécu aussi d'une manière profonde avec le cœur pour entrer dans la communion avec le Seigneur. Bonne écoute à vous tous.
Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous allons prendre un thème qui est très cher à la Sainte Vierge, qui est le thème de l'Eucharistie, donc le thème du corps et du sang du Seigneur, le thème de la messe. Tous les mystiques, qu'ils soient français ou étrangers, ont appuyé sur le fait que la Sainte Messe est le moment le plus important de toute notre vie. La Sainte Messe est le moment le plus sacré de toute notre vie. Et ça, c'est important de le savoir parce que, avec notre société de consommation et d'activisme surmené, eh bien, souvent la Sainte Messe, elle est un petit peu mise de côté, ou complètement mise de côté, comme une chose qui n'est pas aussi importante que nos affaires à nous, malheureusement. Et c'est ainsi qu'en mettant de côté la Sainte Messe, eh bien, nous avons un monde qui s'écroule. Et c'est la Vierge qui le dit, tout s'écroule. Parce que Jésus n'est plus à la première place. Alors la Vierge l'a bien dit, chers enfants, je vous invite à mettre mon Fils Jésus à la première place dans votre vie. C'est-à-dire mettre la Sainte Messe au centre de notre vie. Et quand on regarde avec honnêteté, qui est au centre de notre vie aujourd'hui ? Est-ce que c'est mon mari, ma femme, mon fils ? Mon père, mon curé, mon amant, ou bien alors le plan pour mon avenir, ou bien mon travail, ma carrière, ma santé, ma nourriture, mon poste de télé, mon internet, mon sport. Hein. Pour certains, le football, c'est au centre. Ils n'ont jamais de temps pour Dieu, mais quand il faut passer des heures pour les finales, d'un seul coup, ils ont du temps. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc mes chers amis, sachez que la messe est le moment le plus important de notre vie. Lorsque la Vierge nous a parlé de la messe, bien sûr, elle nous dit, je vous invite, chers enfants, à vous rendre à la messe avec joie, avec gratitude, même si c'est du mauvais temps, même s'il y a de la neige, ou s'il y a une grande chaleur aussi. Voilà, la messe ne peut pas se remplacer par autre chose. On ne peut pas, dit-elle, par exemple, aller dans un cimetière pour prier pour les morts à la place de la messe. On ne peut pas rendre un service à quelqu'un de pauvre, même porter de la nourriture à un pauvre, à la place de la messe. La messe ne se remplace par rien d'autre, nous dit la Sainte Vierge. Parce que c'est Jésus vivant qui vient sur l'autel et qui prie son Père. Avec nous, il prie son Père. Durant la messe, c'est pour ça que la messe est si importante. Durant la messe, durant l'Eucharistie, Jésus prie. Jésus s'offre à nouveau à son Père, comme au Golgotha. Il n'y a rien de moins que ce qui s'est passé au Golgotha, au cours de la messe que nous avons eue ce matin, que nous allons peut-être avoir ce soir encore et demain. Le Padre Pio, qui avait ce charisme de voir en vision la réalité de la messe, ben, sa messe durait très longtemps parce qu'il voyait le calvaire. Il voyait les fruits de la prière de Jésus au moment de son offrande sur la croix. Vous voyez ? Il voyait la souffrance de Jésus. Il voyait tout. Et donc, il était fou de la messe. Et les gens venaient par milliers assister à sa messe parce qu'ils sentaient que c'était la vérité. Et nous sommes aveugles. Mais c'est bien d'être aveugle parce que qu'est-ce qu'a dit le Seigneur ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc on a cette béatitude, on l'a. Comme on n'a rien vu, on ne voit qu'un morceau de pain, on ne voit qu'une table, voilà, on ne voit pas grand-chose. Hein, mais Padre Pio qui voyait, ce sont des témoins qui nous indiquent ce que c'est que la messe, indépendamment de la théologie de l'Église et du magistère, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de la messe, surtout au moment du canon de la messe? Au moment de l'offertoire, par exemple, hein, qu'est-ce que c'est que l'offertoire? C'est le moment où le prêtre va prendre le calice, il va mettre le vin dedans. Mais qu'est-ce qu'il ajoute au vin? Une goutte d'eau. Eh bien, cette goutte d'eau, qu'est-ce que ça représente? Cette goutte d'eau représente nos souffrances qu'on vient apporter, nos croix, nos douleurs, nos maladies, nos peines. On vient aussi apporter notre travail, le fruit de nos mains, le labeur de nos mains. On vient apporter nos personnes. On vient donner nos personnes au Seigneur. Et on vient aussi apporter au Seigneur ceux qui ne sont pas là. Les membres de ma famille qui ne viennent peut-être jamais à la messe. Et puis les Chinois, les Japonais, les Africains, les Australiens, et les gens des îles et tout ça qui ne connaissent pas Jésus peut-être. Hein, d'ailleurs, pas besoin d'aller jusque-là pour voir des gens qui ne connaissent pas Jésus. On vient apporter toutes ces personnes-là qui ne viennent pas à la messe, qui ne font pas l'offrande, en leur nom, nous les apportons à Jésus. Alors, cette goutte d'eau se mêle au vin. C'est une très belle prière. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Il faut écouter cette prière, il faut la dire, il faut la vivre, parce que c'est très beau. Nous allons être unis à la divinité du Christ, comme l'eau se mêle au vin. Et vous avez toujours pouvoir, vous avez toujours essayé de retirer cette goutte d'eau du vin, vous ne pourrez pas, elle est complètement mélangée. Et bien comme notre humanité se mélange à la divinité du Christ. C'est magnifique toutes ces réalités. Alors, dans quelques minutes, ce vin, avec ma petite goutte d'eau, va être transformé par les paroles du prêtre dans le sang du Christ. Le prêtre, quand il célèbre la messe, c'est un autre Christ, en quel persona Christi, comme on dit en latin. Donc la parole du prêtre suffit, c'est la parole du Christ qui transforme le vin dans le sang du Christ. Que devient ma petite goutte d'eau? Ben, elle devient le sang du Christ. Elle ne va pas flotter au-dessus comme ça. Non, elle devient le sang du Christ. Imaginez que votre offrande devient divine. Votre offrande devient divine. Et puis quelques minutes plus tard, qu'est-ce que va faire le prêtre? Il va offrir au Père Céleste le corps et le sang du Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il offre l'offrande, il offre sa propre offrande et la nôtre mêlée à la sienne, Jésus. Il offre au Père Céleste pour glorifier le Père. Et le Père, quand il reçoit cette offrande, qu'est-ce qu'il va voir dans cette offrande? Il va voir l'offrande de son Fils comme au Golgotha. Mais qu'est-ce qu'il va voir d'autre? Il va voir mon offrande. Il va voir l'offrande de mes amis que j'ai apportés. Il va voir l'offrande de mes souffrances, de mon travail. Il va voir l'offrande de ma personne. Il va voir cette offrande et il va être tellement touché, tellement bouleversé de la beauté de cette offrande. Parce que Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'aura divinisé avant d'arriver là au Père. Il m'aura divinisé. Et quand le Père reçoit cette offrande, il est tellement bouleversé, tellement content, tellement joyeux, tellement bouleversé, que immédiatement il relance sur la terre, il envoie sur la terre des fleuves de bénédiction, des fleuves de paix, des fleuves de miséricorde, des fleuves de salut, des fleuves de joie, des fleuves de gloire, de lumière. C'est ça la messe. Vous voyez comme il est important de vivre sa messe. La Vierge nous dit que la messe soit vie pour vous, chers enfants. On n'assiste pas à la messe, on vit la messe. Et n'oubliez pas qu'au moment du baptême, vous avez reçu trois dons, entre autres. Vous êtes devenus prêtre, prophète et roi. Donc vous avez reçu un sacerdoce. Et ça s'appelle le sacerdoce royal des fidèles. Et grâce à ce sacerdoce, vous avez la possibilité de vous offrir comme une hostie vivante et d'offrir le monde. Vous n'avez pas la possibilité comme le prêtre, qui lui a reçu un autre sacerdoce, mais le sacerdoce ministériel du prêtre, parce que lui, il a carrément la possibilité de faire descendre Jésus sur l'autel. Alors là, qui dit mieux? Hein? Qui dit mieux? Si tous les prêtres se rendaient compte de ça, la vie sera changée. Donc, le Père envoie des fleuves de bénédiction. Et ces fleuves de bénédiction vont de par le monde entier. C'est pour ça que la Vierge nous dit, chers enfants, je souhaite et je vous invite à aller à la messe tous les jours quand les circonstances vous le permettent. On ne rate pas une messe, c'est trop beau une messe. Vous avez compris ce qui se passe pendant la messe. C'est trop beau une messe, on ne peut pas rater une messe. Le curé d'Ars disait que si on se rendait compte de la beauté et de la grandeur d'une seule messe, on mourrait de joie. Tant qu'on n'est pas mort, c'est qu'on n'a pas encore compris. Vous voyez? Vous voyez la splendeur d'une seule messe. C'est pour ça que la Vierge nous dit, je vous souhaite que vous alliez à la messe tous les jours. Et très souvent, on pourrait aller à la messe, on préfère regarder un navet à la télévision ou faire quelque chose d'autre, voyez. Vous voyez, quand je dis un navet, ce n'est pas forcément un navet, mais vous avez compris. Alors, donc voilà, Jésus est sur l'autel dorénavant. Le Père a reçu l'offrande. Et maintenant, bientôt, on va passer à la Sainte Communion. Alors, pour être bien sûr de vous dire la vérité sur la Sainte Communion, j'ai demandé à Witzka, qu'est-ce que la Vierge a dit sur la Sainte Communion? Alors là, accrochez vos ceintures parce que la réponse va vous secouer. C'est une réponse qui va changer votre vie. C'est une réponse qui est forte, qui est vraie et qui est admirable. Il faut simplement l'écouter, l'accepter et la mettre en pratique. Parce que elle était l'âme la plus belle qui a commencé à recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Hein ? Les apôtres ont été les premiers et elle aussi a reçu l'Eucharistie des mains de Jean. Hein, peut-être même au moment de la scène, peut-être que Jésus lui a donné en privé là, l'Eucharistie d'après les mystiques. Hein. En tout cas, elle a reçu, imaginez, l'Immaculée Conception qui reçoit le pain de vie, qui est son fils. Imaginez le bonheur qu'elle a eu, imaginez l'émotion qu'elle a eue, imaginez la prière qu'elle a faite, imaginez le ciel qui est rentré en elle. Quoi. Voilà la réponse de la Sainte Vierge. Écoutez bien, chers enfants. Lorsque vous avez reçu mon Fils Jésus dans votre cœur au moment de la Sainte Communion, ne jugez pas le prêtre, ne regardez pas les autres. Il a même dit souvent, ne parlez pas aux autres. Allez à votre place et alors mettez-vous à genoux au moins 10 minutes et parlez avec mon Fils Jésus qui est dans votre cœur. Mettez-vous à genoux au moins 10 minutes et alors parlez avec mon Fils Jésus qui est dans votre cœur. Vous devinez comment j'ai réagi à ça. J'ai fait l'avocat du diable, j'ai provoqué un peu Witzka, parce que quand je la provoque, elle me donne toujours des réponses très intéressantes. Et je lui dis, mais Witzka, est-ce que tu es bien sûr que la Vierge a mentionné 10 minutes? Non, sœur Emmanuelle, me dit-elle. La Vierge n'a pas dit 10 minutes, elle a dit au moins 10 minutes. Minimum 10 minutes. Elle préférerait en fait 20 minutes, me dit-elle. Parce que, chers enfants, nous-t-elle, c'est le moment le plus sacré de toute votre vie. C'est le moment où Jésus, mon Fils, vient vivant dans votre cœur. Accueillez-le. Laissez-le entrer. Parlez avec lui. Vous avez capté le message? Vous êtes un peu choqués? Alors, il faut savoir une chose. C'est que lorsque Jésus vient dans l'Eucharistie, comme tous les amoureux, parce qu'il est amoureux de nos âmes, hein, qui que nous soyons, il est amoureux de chacune de nos âmes, et il serait prêt à revivre toute sa passion pour une seule âme, pour vous dire combien il nous aime. Quand Jésus vient dans l'Eucharistie, comme tous les amoureux, il vient super heureux d'aller vers la personne qu'il aime. Et comme il l'a dit lui-même, ma plus grande joie, c'est de venir, il a dit à Sœur Faustine, vous trouvez ça dans le petit journal de Sœur Faustine. Ma plus grande joie, dit-il, c'est de venir dans l'âme humaine au moment de la communion, afin de pouvoir m'unir à cette âme et pouvoir lui communiquer mes grâces. Donc il vient non seulement pour s'unir à nous, dans une union d'amour extrêmement intime, ce qui est déjà le plus beau cadeau du monde, mais en même temps, il vient chargé de plein de dons, plein de cadeaux, plein de trésors, plein de bénédictions, plein de grâces, avec le but de nous les communiquer. Il a préparé tous ces dons avec une infinie tendresse pour nous. Alors, Jésus arrive vers cette âme, et qu'est-ce qui se passe si le cœur de cette personne est fermé? Disons que la personne a pris des photos pendant toute la messe, a regardé le chapeau de la dame d'à côté et la veste du monsieur d'à côté, à penser au menu qu'on allait faire dimanche à midi, à penser à ceci, à cela, à repasser dans sa tête le match de foot de l'autre jour, enfin bref, complètement ailleurs. Et la personne s'avance vers la table de communion, alors qu'elle n'est absolument pas préparée, on n'est même pas sûr que cette personne soit dans l'état de grâce qui est nécessaire pour recevoir Jésus. Autrement dit, la catastrophe. Le cœur est fermé. Et que fait Jésus devant une porte fermée? Devant une personne qui ne s'intéresse absolument pas à lui, qui vient par habitude, qu'est-ce que fait Jésus dans cette porte fermée? Ben, il attend, avec une profonde espérance que le cœur va finalement s'ouvrir. Et voyant à la fin qu'il n'y a rien qui se passe, le cœur ne s'ouvre pas, eh bien, il va repartir d'où il vient, en remportant avec lui, évidemment, tous les cadeaux, les trésors, les grâces, les bénédictions qu'il avait préparées avec une telle délicatesse, un tel amour, une telle tendresse. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à ce moment-là, son cœur est brisé de douleur. Brisé de douleur. On n'imaginera pas la douleur du Christ quand on le reçoit mal, qu'on ne le reçoit pas, ou par habitude. C'est effrayant. Imaginez, et encore ma comparaison est vraiment légère, hein, imaginez que vous prépariez un super anniversaire, une fête anniversaire pour la personne que vous aimez énormément. Alors, le meilleur repas, les plus beaux cadeaux, vous avez dépensé beaucoup d'argent parce que vous savez que cette personne aime ceci, cela. Les fleurs, la belle nappe, la musique, vous avez tout préparé avec un amour infini. Et au moment du repas, vous recevez un coup de téléphone. Ben, je ne viens pas, j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces cadeaux, de tout ce que vous avez préparé? Est-ce que vous n'avez pas le cœur brisé de douleur? De voir que vous aimez cette personne et que la personne n'a rien à faire, voyez, avec vous. C'est horrible. Et ça, c'est rien à côté de ce que Jésus ressent quand on ne le reçoit pas ou on le reçoit mal. Il a même été jusqu'à dire à Sœur Faustine, « Sache, ma fille, que j'arrive dans certaines âmes comme pour vivre une nouvelle passion. Il y a certaines âmes qui me reçoivent comme une chose morte. » C'est Jésus qui dit ça. Alors que quand le cœur est ouvert, c'est toute une autre histoire. Il a même été jusqu'à dire, « Sache, ma fille, que pour moi, entrer dans l'âme humaine au moment de la communion, entre parenthèses, une âme qui est bien préparée, qui aime Jésus, c'est comme entrer dans un autre ciel. » Vous voyez comme il nous aime. Hein. Alors, quand le cœur est fermé, ben c'est le désastre. Parce que la personne reste vide, a même fait un péché de communier dans un état indigne, et puis Jésus repart, complètement brisé de douleur. Heureusement, il y a toujours des âmes qui le reçoivent avec un cœur ouvert. Donc la personne s'est bien préparée, la personne a bien vérifié qu'elle se trouve en état de grâce, donc non pas en état de péché, c'est-à-dire qu'au moins une fois dans l'année, elle s'est confessée. Dans les commandements de l'Église, vous voyez qu'on doit se confesser au moins une fois l'année, hein. Et si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas communier. Un jour, je me souviens, il y avait un prêtre américain, et il avait dit au moment de distribuer la communion, « Je demande à tous ceux qui ne se sont pas confessés récemment, au moins dans l'année, de ne pas venir à la table de communion, d'aller vous confesser aujourd'hui, et demain vous pourrez communier. » Eh bien, il y a plus de la moitié des gens qui sont restés assis, qui ne sont pas présentés, alors que la veille, tout le monde a été communié. Aujourd'hui, on va communier comme si... pas besoin de vous faire une description. On ne peut pas communier si on n'est pas en état de grâce. Parce que qu'est-ce qui a torturé Jésus? Quels sont les instruments de la passion? Bien sûr, ce sont les clous, la couronne d'épines, la lance, etc. Mais c'est surtout nos péchés. Hein? Donc si Jésus trouve un paquet de péchés non confessés en nous, ben on le torture. Tout simplement. C'est pour ça qu'au début de la messe, on fait « Je confesse à Dieu » pour... redire au Seigneur qu'on se repent de nos péchés et qu'on les abandonne, voyez. Ce sont les péchés véniels, les péchés mortels, il faut vraiment que ce soit un prêtre qui vous donne l'absolution, sinon, voilà. Alors, quand Jésus rentre dans une âme bien préparée, alors lui, ça c'est le ciel. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est rentré dans cette âme? Ah, c'est une bonne question. Quelle est son activité principale? Eh bien sûr, il communique toutes ses grâces, comme il l'a dit. Il communique sa joie, il communique sa paix, son amour, il communique sa lumière, son intelligence, sa force. Il se communique surtout lui-même. Mais une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'il nous transforme. Il y a une opération, entre guillemets, de transformation qui s'opère lorsqu'on reçoit Jésus avec amour. Ça veut dire qu'il nous divinise. Ça veut dire qu'il nous transforme en lui-même. Il est le pain de vie que nous allons manger afin d'être transformés dans le Christ. C'est un grand mystère devant lequel les anges eux-mêmes s'agenouillent, s'émerveillent. Ils sont fascinés par ce mystère de l'Eucharistie et de la communion, parce que eux, comme ils n'ont pas de corps, eh bien, ils n'ont pas de communion. Bon, ils ont d'autres grâces. Hein. Ils peuvent se déplacer comme ça, ils sont spirituels. Bon, ils ont plein de grâces que nous n'avons pas. Mais la communion, nous l'avons. Et ça, c'est la plus grande chose. D'avoir Jésus en nous, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus nous transforme? Ça veut dire que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est devient mien. Sa gloire devient mienne. Sa beauté devient mienne. Son amour devient mien. Son cœur devient mien. Sa joie, sa paix. Sa miséricorde. Sa tendresse, sa pureté, son humilité. Tout ça devient mien. Parce qu'il se donne à moi, il se communique dans une grande action mystérieuse, voyez, qui ne se produit que là. Voyez, je vais donner l'exemple du pain, puisque Jésus a pris du pain. Supposons que je mange, un fruit par exemple. Hein. J'ai une nourriture, je prends un fruit, je prends une pomme par exemple. Hein. Je mange cette pomme. Et au bout d'un certain temps, il n'y a plus de pomme. Hein, parce que mon organisme a transformé la pomme, je dirais en sœur Emmanuelle, hein, pour faire une histoire courte, un raccourci. Mon organisme a pris la pomme, l'a transformée et en a fait mes cellules dans tout le corps, aussi bien du cerveau que les doigts de pied. Tout mon corps est, comme dirais, visité par la pomme. Voilà. Autrement dit, j'ai transformé la pomme en sœur Emmanuelle, hein, pour faire un raccourci. C'est mon organisme qui a fait ça. Même sans que je le comprenne, c'est comme ça que ça se passe. Mais, quand je prends le pain de vie, qui est le pain eucharistique où Jésus réside, qui est Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est lui, ma nourriture, qui va me transformer en lui-même. C'est pas moi qui transforme Jésus en moi, le pauvre, ça serait la catastrophe. Hein, c'est lui, Jésus, qui me transforme en lui-même, c'est-à-dire qui me divinise et qui me donne tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Et c'est ça, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il est important, comme l'a dit la Sainte Vierge, je vous l'ai dit au début, de prendre du temps pour accueillir Jésus. Supposez que vous attendiez un ami qui vient, alors l'ami sonne, voilà, vous avez invité, l'ami sonne à la porte, il dit « Ah bonjour, salut, comment ça va? Comment ça va chez toi? Bien, bon, allez, alors, vous refaire la porte, ben ça va, à la prochaine. Hein. » Qu'est-ce qu'il a le temps de vous donner? Qu'est-ce qu'il a le temps de partager avec vous? S'il y a passé au moins minimum 10 minutes d'intimité avec lui. Il est trop content de cette intimité. Il rêve de ça. Il rêve de ça parce que pour lui, c'est le ciel commencé. Pour nous aussi. Je me souviens d'un épisode que la voyante du cœur, Yelena Vassil, m'avait raconté. Donc, c'est une jeune fille du village au moment des apparitions. Maintenant, elle est mariée, elle a 5 enfants. Et donc, à l'époque, elle avait ce qu'on appelle des locutions intérieures et des visions intérieures de Jésus, de Marie, et, bon, des êtres spirituels comme ça. Et alors, un jour, elle me raconte qu'elle sortait de l'église après la messe et elle a vu Jésus. Et Jésus était ensanglanté. Il était dans sa passion, il avait la couronne d'épines, son visage tout couvert de sang, de boue, de crachats. On voyait qu'il avait été battu, il était tout tumifié. Son manteau était tout rouge, tout sale de boue et de, vous voyez, le manteau rouge qu'ils avaient fait pour se moquer de lui, plein de sang, plein de boue, enfin bref. Jésus, dans sa passion, torturé. Et qu'est-ce qu'il a dit à Yelena? Sache, ma fille, que mes enfants, lorsqu'ils me reçoivent dans la Sainte Communion, ils me prennent, ils vont vers leur place, ils font le signe de la croix, et ils me congédient. Et c'est fini. Voilà. On commence à parler d'autre chose, la messe est bientôt finie, et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a pour Jésus? Rien. Pas une prière, pas un acte d'amour, pas une parole d'accueil, pas une parole de joie, de remerciement, voyez. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Et c'est pour ça que le monde va mal. Parce que la source de toutes les grâces, qui est l'Eucharistie, si on la méprise, où est-ce qu'on va chercher la grâce? Dans les magasins? Dans les grandes surfaces? Dans les cinémas? Dans l'internet? Dans le sport? Dans l'avoir, le faire? Où est-ce que, d'où jaillit la grâce si c'est du corps, du sang, de l'âme et de la divinité du Christ que l'on reçoit au moment de la messe? Beaucoup ont abandonné la messe du dimanche. Je ne parle pas de la messe de la semaine. Beaucoup ont abandonné la messe du dimanche. C'est un grand malheur pour le monde entier. Parce que si nous, les baptisés, si nous, les chrétiens, nous abandonnons la messe, ce n'est pas les païens qui vont y aller à notre place. Autrement dit, le sang du Christ est déversé et il tombe pour rien. Vous voyez? Les restaurants, les pizzerias, les centres commerciaux sont bourrés de gens. Et les églises sont... Je ne dis pas vide, mais presque vide. Qu'est-ce que nous attendons de cette vie? Voyez. Alors, réjouissez-vous, parce qu'avec une bonne confession à la clé, que vous allez certainement faire ici à Medjugorje, je vous exhorte vraiment à faire une bonne confession sincère, avec un vrai repentir de vos péchés, une vraie décision de ne plus retomber, de faire tout pour ne pas retomber dedans, au moins de vous mettre dans les bonnes conditions pour ne pas retomber. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez maintenant vivre la messe pour donner beaucoup de joie à Jésus et vous donner à vous-même beaucoup de joie. Plutôt, laissez Jésus vous donner beaucoup de joie.
Voilà, chers auditeurs, nous retrouverons Sœur Emmanuelle la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet enseignement sur l'Eucharistie vécue avec le cœur. À vous tous, alors, une bonne continuation à l'écoute des programmes de votre radio chrétienne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Eschatologie et Prophétie.